Bon, j'ai bien conscience de vous avoir balancé comme ça des gros concepts en pleine tête de façon très ramassée. Donc voilà, forcément, il manque des détails, il manque. Et puis ça fait beaucoup d'un coup, quoi. Mais voilà, n'hésitez pas si vous avez besoin d'éclaircissement ou j'ai forcément manqué de nuances sur sur certains aspects parce que j'ai dû résumer à bloc.
Vous pouvez parler un peu plus fort, si c'est possible.
Je dis juste, j'ai dû vraiment ramasser la définition d'un tas de concepts là que je vous ai mis comme ça un petit peu en bloc. Donc voilà, forcément, il y a un tas de nuances à apporter, de précisions. Voilà, n'hésitez pas. Pour poser des questions, à exprimer un peu vous comment ça peut vous questionner dans votre vie quotidienne, dans les différents espaces sociaux, dans vos activités.
Il y a une question là derrière.
À un moment donné, tu dis les femmes, dans le rôle qu'elles ont. On leur attribue au sein de la famille. Il y a quand même. Oui, elles peuvent céder ce rôle du ménage, des enfants, à d'autres personnes qui viendront le faire. Mais c'est d'autres femmes qui viendront le faire. Donc, est-ce que ça change quelque chose dans le rapport femme-femme, homme-homme, homme-femme, de laisser faire à d'autres femmes? On pourrait croire que c'est une réussite, que ça a avancé.
Pas vraiment. Juste, c'était pour nuancer, parce que dans ce que j'ai présenté, je disais les hommes, ils pourraient les acheter, ces services. Et juste, effectivement, encore plus aujourd'hui, pour des femmes qui travaillent, c'est possible de les acheter, ces services. Et non, pour moi, il n'y a aucune avancée. Et c'est là que les rapports sociaux de classe et de sexe, ils sont consubstantiels. Et donc, à un moment donné, là, la femme, elle va quand même être une employeuse et on va se situer dans un... Et on va se situer dans un rapport salarié, dans un rapport de pouvoir entre deux femmes, une qui sera employeuse et l'autre salariée. Et puis effectivement, c'est toujours des femmes qui vont venir faire ce travail. Donc non, moi je pense pas que ce soit progressiste. C'était juste pour apporter une précision justement sur une nouvelle forme, les nouvelles formes d'exploitation.
Est-ce que les femmes sont capables de laisser justement s'il y a des hommes justement qui proposent ce type de service, de s'occuper de leurs enfants, est-ce que des femmes sont capables d'accepter qu'un homme prenne l'éducation de leurs enfants?
Oui, donc là il est en train de poser la question de savoir si les femmes sont capables d'accepter qu'il y ait des hommes de ménage s'occuper des enfants, par exemple.
Effectivement.
Parce que le rôle de confiance sera le même.
Effectivement, après, du coup, les hommes qui se retrouvent dans des métiers dits féminins, de la même façon que des femmes qui se retrouvent dans des métiers dits masculins, ils se retrouvent minorisés et ils doivent faire leurs preuves. Et bien sûr, c'est pas évident du tout. Et ça va pas être facilement accepté parce que persiste ce modèle, enfin persiste la naturalisation des savoirs dits féminins ou dits masculins. Donc oui, ce préjugé comme quoi une femme elle va faire mieux, je pense qu'il persiste dans une large part. À la fois, il commence à y avoir ça. En tout cas, par exemple, il y a de plus en plus d'hommes dans les métiers d'assistante sociale. Enfin, et c'est souhaitable. Et enfin pour moi, on lutte encore quoi.
Oui, mais quand
après,
même,
je sais pas, comment ?
Oui, par rapport à ce que la femme est capable, je crois que ça appelle un peu ce que tu disais tout à l'heure, l'oppression intériorisée de la femme. La femme, elle a intégré aussi des schémas. Et parfois, tout en souhaitant que l'homme s'occupe du bébé et tout ça, elle a aussi peur que l'homme ne fasse pas aussi bien. Et elle vient de manque de confiance. Mais je crois qu'en effet, elle a intériorisé aussi ce schéma du genre qui fait qu'un homme n'est pas capable de faire ça, ou il ne le fera pas bien, ou forcément, même la lessive ne fera pas bien. Et chacun se conforte peut-être dans ces deux rôles-là aussi. Il faut peut-être qu'en effet, on avance ensemble, et que là, il y a un dialogue. Si on accepte à sortir de ces modèles de genre, on pourrait discuter d'être humain à être humain, de personne à personne, de chacun de nos peurs, de tout ça, quoi. On avancerait peut-être comme ça.
Est-ce que la femme aussi se sent pas coupable s'il prend ma place, je vais faire quoi? On est coupable de qu'est-ce qu'on va faire après, qu'est-ce qu'on va faire à la place.
On regardera les
parce que la culpabilité.
Pétanque.
Alors, réaction.
Après, de nos jours, on parle plus dans ce que j'ai un peu compris. Pour moi, on parlait de domination masculine et maintenant, on parle de domination de genre.
Ouais.
Voilà. Donc, ça veut dire que le genre n'est pas... parce que pour faire la différence entre le genre et la sexualité, dans le genre, j'avais différencié avec transsexuel, homosexuel, bisexuel, hétérosexuel, alors que la domination sexuelle était basée que sur ce que vous disiez au départ, sexe homme-femme.
Ouais.
Et là, moi, j'aurais besoin qu'on rééclaircisse, en fait, la domination de genre, quand on parle...
Ouais, alors, la domination de genre, en fait, pour moi, elle est associée à la domination masculine. C'est juste une approche, en fait. C'est juste le fait que, quand on parle de domination masculine, ça veut pas dire que... quelqu'un qui est perçu comme un homme, forcément, il est porteur de cette domination. Un exemple, par exemple, il y a Vanessa Vatrumet, elle a bossé sur les violences conjugales chez les lesbiennes. Et donc, justement, elle utilise cette approche du genre pour dire que, parce que le genre est un système d'oppression hiérarchisée, etc., en fait, les lesbiennes, elles vont, on va reproduire le système du couple traditionnel, on va reproduire ce système de rôle complémentaire, hiérarchisé, etc. Et bien sûr, on aura le terreau parfait pour que la violence conjugale, elle puisse avoir lieu. Tu vois, et malgré tout, elle dit, ça reste valable de parler de domination masculine parce que le pouvoir qui est exercé, il est transmis en tant que masculin. Mais c'est intéressant d'avoir l'approche de genre parce que ça permet de penser ça, de penser notamment voilà une forme de domination masculine portée par une femme. N'hésitez pas.
Est-ce qu'on au début aussi, tu as dit, dans le milieu occidental, dans le monde occidental, est-ce que ce type de débat, de réunion, de pensée, peut être fait, pas dans les mêmes conditions, mais dans des conditions similaires ou légèrement approchantes, au fin fond de l'Afrique, au beau milieu de l'Asie? Comment dans d'autres civilisations ou d'autres parties du monde, on pense, on vit, on travaille, on exploite ces genres, ces différences entre l'homme et la femme?
Alors, moi, ce que j'ai présenté, c'est une évolution de la pensée pour appréhender ces rapports sociaux. Maintenant, ça ne veut pas dire que les objets de recherche, les terrains de recherche, ils se passaient qu'en France. D'accord? Ça peut être, ils ont même ces modes de pensée-là, ça fait une espèce de méthodologie ou problématique de départ. Elle est utilisée par plein de chercheuses aujourd'hui qui étudient d'autres sociétés ou qui ne sont pas comme en Occident et qui n'étudient pas que des sociétés occidentales. Et donc, bien sûr, il va y avoir des formes de domination différentes, des formes de construction différentes, mais le concept de genre, il est opérant pour pouvoir analyser, appréhender comment ça se fabrique. C'est juste opérant pour se dire que rien ne va de soi, en fait. Ça suffit pas pour dire ça se passe de telle façon ou telle façon. C'est juste un postulat de départ de se dire le genre précède le sexe. C'est un postulat de départ qui permet du coup d'avoir un peu de recul et de pouvoir analyser les rapports sociaux du coup partout. Parce qu'après, y compris, la société elle est pas du tout homogène. Elle est traversée aussi. Du racisme, de personnes qui sont ethnicisées, etc. Les chercheurs en France, ils sont pas tous franco-français. Enfin, il y a plein de formes de recherche différentes, mais les labos de recherche aujourd'hui sur le genre, vraiment, ils sont dans l'articulation des rapports de classe, de sexe et de race. Et quand même, ils essayent. Enfin, du coup, les objets de recherche vont, les sujets de recherche, hein, on dit objet, c'est juste pour le terrain, quoi. Ils vont au-delà de la France, ouais, de l'Occident.
Il y a, comme tu dis, bon, Bourdieu, la domination masculine, Françoise Héritier, qu'on en fait une loi universelle. La domination masculine serait pour eux universelle. Ce qui leur a été critiqué, c'est d'avoir une vision de l'individu dans sa société, de partir, pour pouvoir dire ça, ils sont partis d'une vision de l'individu dans leur société qui est une vision occidentale. Or, beaucoup d'anthropologues, qui sont moins connus, qui ont fait des théories beaucoup moins élaborées, se sont situés dans des façons d'être dans d'autres sociétés, où l'homme dans sa société, il y a des sociétés où le mot femme et homme n'existe pas. On ne peut pas dire un homme, une femme. On peut dire je suis une sœur, je suis une mère, je suis une amie, je suis un père, je suis. Mais le mot homme et femme n'existe pas. C'est-à-dire que par exemple, les toilettes publiques homme-femme, il y a des pays où ils ne peuvent pas comprendre ça. Parce que c'est quelque chose qui ne se conçoit pas dans l'être humain, dans cette société-là. Voilà.
Donc, ils sont tous au même endroit ? Je ne crois
pas.
Alors, si tu vas être public comme femme, peut pas se concevoir, je crois pas. Enfin, je sais pas, j'ai fait beaucoup de pays dans le monde, on ne peut jamais même endroit, quoi.
Alors, en Indonésie, par exemple. Alors, ça, c'est des cas d'école, mais c'est pas un pays où je suis allée. Vous arrivez à l'aéroport, il y a marqué, alors, dans la langue, pour que tous les étrangers, puisque l'Occident a fait des pensées dominantes, quand même, des idées dominantes, pour que tous les étrangers qui passent dans l'aéroport puissent pouvoir aller, comme tu dis, pisser, qu'ils soient un homme ou une femme, ils ont essayé de trouver des termes qui soient, communs, un peu, à tous les gens qui passent. Bon, alors, il y a un anthropologue qui est arrivé, qui dit très bien, donc il a essayé de décrypter le terme. Et puis ensuite, il est allé dans une ville où il a cherché aussi les WC où il y avait homme-femme. Et là, il a pu trouver les mêmes termes. Parce que, en fait, on avait essayé de trouver une traduction qui puisse aller pour un peu tout le monde, mais dans le pays, ça marchait pas. Alors, ils avaient trouvé selon d'autres hiérarchies. Parce que les sociétés ont des organisations. Toutes les sociétés s'organisaient, mais de façon très différente. Alors, il n'y a pas forcément des traductions pour tout, parce qu'on n'est pas forcément tous organisés de la même façon. Je sais pas si je peux expliquer davantage.
Oui.
Oui, on n'est pas tous organisés de la même façon, je suis d'accord avec vous. Le rapport de pouvoir homme-femme existe partout.
Alors, si vous
avez... On répond aussi à la question de monsieur, ce concept de genre est utilisé effectivement en Afrique, en Asie, je ne dis pas en Afrique. Je ne dis pas que ça n'existe pas, mais c'est que personnellement, je ne l'ai pas vu, mais en Afrique, Afrique de l'Ouest, Afrique centrale, il est utilisé. Effectivement, quand on l'utilise, on ne l'utilise pas par rapport à l'organisation de la société telle que la nôtre. On l'utilise appliqué à l'organisation de la société dans laquelle on est. Et le rapport de pouvoir homme-femme, exprimé de multiples façons, existe toujours. Donc, on se retrouve toujours dans cette problématique de genre à trouver comment faire en sorte que l'égalité arrive et qu'il y ait un re-questionnement et une remise en cause des rapports sociaux. Par exemple, monsieur parlait du partage des tâches au sein de la famille. C'est une remise en question. Il faut analyser qui fait quoi. Et peut-être qu'on peut repartager les tâches et oublier que par naissance, que par éducation, que par socialisation, un tel ou une telle fait telle ou telle chose. Ben, c'est un peu ça que je voulais. Je suis d'accord avec vous. Partout, la notion de femme n'est pas exprimée de la même façon. Enfin, ce que je peux en connaître, je ne connais pas tout. Le rapport de pouvoir homme-femme est dominant.
Tu voulais répondre.
Alors, si je peux me permettre, donc, le rapport de domination est un rapport humain. C'est-à-dire qu'il y a effectivement des humains qui dominent les autres dans toutes les sociétés du monde. Après, sur la question du pouvoir, alors moi aussi, quand je voyage, effectivement, je ne vois absolument rien. C'est seulement quand j'ai vécu dans une société, dans une famille où j'ai aimé, fait l'amour, à être amie, élever des enfants, etc., dans la vraie vie, quand on vit, qu'on partage les relations, où c'est là, alors je dis moi, mais un anthropologue en tout cas, et c'est à ce moment-là qu'il se rend compte que, eh ben, il y a plein de pouvoirs différents. Il n'y a pas un pouvoir politique comme souvent on l'a mis en exergue en Occident. Il y a des sociétés où celui qui a le pouvoir politique, il est quand même, ben c'est vraiment, il n'a pas d'autre pouvoir, on lui laisse celui-là. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas un pouvoir et tous les pouvoirs ne sont pas équivalents dans toutes les sociétés. De ce fait, les dominations, bien sûr, c'est quelque chose qui est dans les relations humaines, je pense qu'on peut croiser dans le monde entier. Mais il ne faut pas croire qu'elles sont construites pareilles, de la même façon pour tout le monde. Voilà. Et que c'est systématiquement des rapports de domination homme-femme. Si on prend l'Afrique de l'Ouest, il y a beaucoup de régions rurales où ce dont souffrent principalement les femmes d'une domination, c'est la domination des belles-mères. Et ça les fait souffrir toute leur vie de femme, beaucoup plus que la domination du mari, qui souvent lui-même est dominé par la belle-mère. Donc ce que je veux dire, c'est que le principe de domination, on est d'accord. Il est dans la façon de fonctionner entre les humains, on va le retrouver probablement dans plein d'endroits du monde. Mais il s'inverse en fonction de la façon dont les sociétés sont organisées. Il peut être tout à fait différent. On ne le verra pas en voyageant. Moi, je suis d'accord avec vous. Je ne peux pas le voir en voyageant. C'est très complexe. Une société analysée, c'est très complexe. Et du coup, il faut se méfier de ce qu'on appelle notre sociocentrisme, qui est que de croire que la façon dont nous, on voit le monde, c'est le monde, quoi. Et non, en fait, ça demande beaucoup plus de complexité, de finesse pour nous-mêmes nous comprendre, en fait.
Moi, j'ai une question.
Mais dans les lois, ça se retransmet quand même pratiquement partout sur une domination en femme.
Alors, bien sûr, la société étatique. Bien sûr.
Et rebondir par rapport à ce que tu as dit, il y a quelque chose qui n'est pas clair pour moi. C'est que tu dis, donc il y a la belle-mère, il y a cette prise de pouvoir-là, et parfois, j'ai cru entendre, et parfois le mari aussi subit la belle-mère. Oui, mais c'est parfois. Je veux dire, si tu dis parfois, je sais pas, c'est peut-être ce que tu as dit. Tandis que là, qu'il y a une domination hiérarchisée au sein même du gynécée, si je veux dire, au sein même de la population féminine, mais ça, j'en doute pas. Ça, j'en doute pas du tout. Qu'il y ait effectivement des prises de pouvoir d'une femme par rapport à une autre. Mais, qu'on peut se poser comme question, c'est quand même entre hommes et femmes aussi. Alors, si tu dis parfois l'homme aussi, mais est-ce que c'est...
Je dis ça parce qu'il y a énormément de sociétés différentes et je ne peux pas
dire... Non, mais je veux dire... Oui, c'est pour ça que j'ai dit d'accord. Ça. C'est ce que je voulais comprendre.
Voilà, l'oppression institutionnalisée, celle qui ne l'est pas. C'est l'homme-femme et l'institutionnalisée. Non.
Merci. Et du coup, je veux bien juste revenir sur ce que j'ai dit pour dire... c'est une des problématiques contemporaines de essayer de prendre la mesure de l'ethnocentrisme de la sociologie des rapports sociaux de sexe, en tout cas en France. Maintenant, voilà, de la même façon qu'il y a 30 ans, les chercheuses, elles ont dû se battre pour être connues et pour être acceptées dans les labos de recherche. Et même encore, je pense à la lutte aujourd'hui. Les femmes issues de l'immigration, ou les femmes en tout cas non blanches, elles doivent se battre à fond. Aujourd'hui, c'est vraiment pas du tout gagné. Et donc forcément, il y a un biais dans tout ce qu'on présente là, puisque l'expérience et l'approche de ces chercheuses-là, il est pas encore pris en compte de toute façon très très limitée. Là-dessus, c'est assez intéressant, je pense, d'aller voir les travaux d'Elsa Dorlin ou de aussi Ouria Kebabza, qui par exemple parle des rapports filles-garçons dans les cités. Et puis juste aussi, moi, du coup, je connais pas beaucoup de chercheuses hors d'Occident. Et puis moi, j'ai du mal en fait à parler d'ailleurs que de là où je suis. En fait, je trouve que c'est important qu'on. Enfin, je trouve que c'est l'un des intérêts du féminisme, c'est aussi que il y ait des femmes qui aient pensé à tout ça, et de la recherche et que on tienne compte de nos positions et du fait qu'on est tous situés, quoi. Donc moi je me sens située comme femme et comme blanche aussi, donc il y a un peu un truc où je suis pas à l'aise, moi, de parler d'un ailleurs, que j'ai l'impression que des fois un peu il y a une idée commune qui voudrait que, comme objectivement on a l'égalité des droits en France, voilà, puis on a le droit de divorcer, puis maintenant quand même les femmes elles ont un peu plus accès au travail, enfin c'est plus fréquent que dans un couple que les deux travaillent et tout. On fait un petit peu comme si c'était ailleurs, il y a le mariage forcé, l'excision et tout. Et on a du mal à voir que, en fait, nous, ici, on est toujours emprunt dans les mêmes problématiques, même si elles se jouent complètement différemment. Mais à un tas de niveaux, du coup, enfin, bon, moi, j'aime bien le fait d'être plutôt sur ce qu'on vit maintenant, quoi, enfin, là où on est, du coup. Mais du coup, c'est intéressant, par contre, d'avoir ton histoire, quoi, ton témoignage, ce que tu as pu vivre ailleurs. Là, c'est...
Je n'ai pas le niveau à proposer, je n'ai pas mon histoire.
Tu as pu étudier sur d'autres pays, ouais. Et aussi, ouais, il y a un truc que je vous ai pas, un élément que je ne vous avais pas donné dans le patriarcat, là, tel que Delphi, elle l'élabore. En fait, justement, elle parle des relations entre femmes pour dire que un des rouages du patriarcat, c'est de mettre en concurrence les femmes. C'est une des difficultés, du coup, de la lutte des femmes, parce que les femmes, elles vont être mises en concurrence sur le marché matrimonial et sur le marché économique, quoi. Et donc ça n'aide pas la lutte collective et la prise de conscience et la résistance au changement. Bon, juste, c'était un petit aspect du truc.
Oui.
Ça va pas de soi, la solidarité entre femmes, quoi.
Non.
Mais c'est pas exceptionnel, c'est pas simplement une femme dans ce cas-là, parce que diviser pour mieux régner,
on trouve aussi.
Oui, du coup, c'est logique. Ouais.
Oui, tu veux dire.
Non, je ne peux pas capter la parole.
Mais je t'en prie pour le moment.
Je voudrais pas être là pour casser tout ce qu'on sait, peut-être, tout ce qu'on a apporté, mais. Il y a aussi la notion de patriarcat et de matriarcat qui sont éminemment remis en cause. C'est-à-dire que ça voudrait dire, le patriarcat pour les hommes et le matriarcat pour les femmes, que l'homme ou la femme, dans chaque situation, détient absolument tous les pouvoirs. Or, vraiment, c'est une situation non vue d'aucune société. On détient absolument tous les pouvoirs. Ne serait-ce que dans une société patriarcale, le pouvoir de reproduction, il est détenu par les femmes. Donc ça, c'est déjà un des pouvoirs qui ne peut pas être détenu par les hommes. Donc, on a du mal à imaginer, en tout cas, des recherches qui ont été faites, c'est une notion qui n'existerait pas dans la vraie vie qu'un des sexes détienne absolument tous les pouvoirs. Voilà. C'est tout, c'était... C'est pas mon histoire.
Hein, dans la reproduction, c'est moitié-moitié, madame.
Enfin, moi, j'ai fait le bébé, moi...
Ah non, tu l'as fait toi-même, mais tu l'as pas fait toute seule.
Non.
Oh non, c'est pas moi.
C'est loin d'être moitié.
Moi, je dois dire que dans l'expérience de tous les jours, moi, ce que je trouve une pratique qui peut faire avancer les choses, c'est l'alternance. Dans un couple français, avéronnais d'aujourd'hui. Hein. Aujourd'hui, c'est moi qui fais ça, demain, ce sera toi. Nous, quand on était plus jeunes, ça s'est un peu tassé, mais quand on était plus jeunes, ça marchait bien comme ça pendant les vacances. Pendant une journée, il faisait la cuisine, la vaisselle avec les gosses, et moi j'étais dans ma chaise longue et j'avais aucun scrupule. Et bien, je trouve que si on arrivait à faire ça pendant un mois, et puis toute l'année aussi, pas seulement pendant les vacances, et bien ce serait vraiment, moi je vous assure, on est bien après. Donc,
bon, je t'attribue la parole.
J'allais la prendre, sinon. Donc, tu parlais d'alternance. Moi, la question que je veux poser, c'est une vraie question. Je n'ai pas d'opinion là-dessus et ça m'intéresse de connaître ton opinion à toi, puis l'opinion des gens qui voudront s'exprimer là-dessus. C'est sur les questions de non-mixité, puisque c'est devenu un petit peu à la mode là, de parler d'espaces non mixtes, alors que ce soit à l'école par exemple, rétablir des classes, rétablir des écoles non mixtes pour lutter contre ces questions de discrimination. Mais ça, il en est question aussi dans des associations, dans des syndicats, y compris des syndicats d'étudiants qui se posent la question, est-ce que ça serait pas mieux de faire des réunions que de femmes pour que les femmes puissent prendre plus la parole. Et bon, j'ai entendu des arguments qui pouvaient être convaincants, mais je ne suis pas convaincue. Donc voilà, j'aimerais bien avoir d'autres arguments.
Ok. Alors, c'est à la mode. En fait, c'était une pratique massive dans le mouvement des femmes des années 70, les groupes de conscience en non-mixité. Voilà, c'était l'idée de se retrouver entre femmes pour penser l'oppression, profiter de la communauté de pères pour identifier les choses, favoriser la parole. Moi, ma position là-dessus, Et puis je pense que c'était quand même assez aussi majoritaire dans les années 70, c'est que c'est un outil. Pour moi, c'est pas une fin en soi. C'est-à-dire que effectivement, puisque dans un espace mixte, dans des réunions mixtes, on observe que la parole est souvent monopolisée par les hommes et que parfois, enfin moi je l'ai vu vraiment de façon, très précise. J'avais étudié dans chaque réunion, je notais toutes les prises de parole de plein de groupes d'extrême gauche super qui étaient tout à fait dans une dynamique égalitaire. Et ben vraiment, enfin moi j'écrivais des articles, c'était quelqu'un d'autre qui les avait écrits. Enfin vraiment, moi dans les groupes politiques auxquels je participais, quand une dame elle fait une proposition, et ben ça devient la proposition d'un tel et plus d'une telle. Ou alors on va la répéter, on va la dire autrement. Vraiment c'est des, enfin on observe ça souvent. Après il y a des exceptions et puis tant mieux quoi. Mais du coup dans ce sens-là, il y a un intérêt à un moment de se retrouver entre soi pour que celles qui ont du mal en tout cas à prendre la parole ou à être entendues, elle puisse avoir une autre forme d'espace pour s'exprimer et pour échanger. Bon, voilà, ça c'est une chose pour ensuite derrière être plus armée en mixité pour prendre la parole, se sentir légitime à prendre la parole. Après, il y a aussi un autre usage. Moi, je bosse dans une asso de lutte contre le viol et les agressions sexuelles. Massivement des femmes qui sont victimes à 90%. Juste là, très concrètement, les femmes, s'il y a des hommes, elles se sentent pas en sécurité. Donc le lieu d'accueil, il est non mixte. Nous, on n'est pas, c'est pas pour exclure les hommes, c'est pour que les femmes, elles se sentent en sécurité parce qu'elles sont toutes victimes d'hommes. Enfin, là, ça répond juste à un besoin. Et par exemple, à Marseille, le SOS Viol Marseille, ils ont voulu mixifier leur équipe. Ils ont commencé à recevoir des garçons qui ont été victimes et leur proposer du coup que, enfin leur demander leur avis, leur proposer de faire appel à d'autres hommes aussi pour qu'ils les écoutent. Et même eux disaient, enfin que non, la plupart du temps ils avaient été victimes d'hommes et qu'ils avaient plutôt besoin que ce soit des femmes qui les écoutent parce que ça les rassurait. Bon voilà, là juste c'est répondre à un besoin précis à un moment donné qui fait que, bah moi du coup dans les différents boulots que j'ai eu dans le domaine des violences, on était en non-mixité, à un moment ça avait un sens. Ça veut pas dire que c'est, voilà, que c'est valable partout quoi. De même pour l'accueil, à un moment donné, ça a un sens.
Dans le milieu scolaire.
Après, par exemple, je pense dans le milieu,
c'est dans l'éducation, c'est là où je
me suis dit, quelqu'un m'avait bien expliqué que, par exemple, il y a eu des expériences intéressantes pour certains jeux. On voit que les garçons et les filles, ils s'approprient pas les jeux de la même façon. Ils vont pas aller vers les mêmes jeux. Donc, pour pouvoir favoriser le choix, pour qu'ils puissent s'approprier n'importe quel jeu et être plus libres de devenir qui ils veulent, et ben à un moment donné c'est intéressant d'expérimenter la non mixité pour voilà pour aider à cette appropriation quoi, mais à un moment donné, pas ponctuellement, pas de façon définitive, sinon on est dans une logique séparatiste, là c'est autre chose et c'est une infime minorité du mouvement féministe passé et présent. Quand on revendique quand on demande d'avoir un espace non mixte, c'est pas pour que ça dure. Par exemple, une expérience que j'avais eue, que j'avais bien aimée, on avait un groupe avec des copines, on organisait des soirées, voilà, où il y avait des œuvres de femmes, un film, un infokiosque, et puis voilà, il pouvait y avoir un débat, un micro ouvert, des trucs comme ça. On essayait d'avoir différents espaces d'expression. Ben, les soirées, elles étaient mixtes. Mais on était un collectif non mixte parce que notre objet c'était juste d'organiser les soirées. Mais parce qu'on se disait voilà, on veut essayer d'être autonome quoi. Souvent il y a toujours un gars qui va gérer la technique, il y a des trucs voilà qu'on sait pas faire et tout, ben on veut apprendre à gérer de A à Z l'organisation d'une soirée. Mais les soirées qu'on faisait, elles étaient mixtes et c'était, tu vois, c'était sur féminisme. Ben voilà, à un moment donné, moi je trouvais ça, j'ai apprécié de pouvoir m'en sortir sans avoir besoin de demander à un pote quoi, voilà. Me dire ça je sais pas le faire, c'est con, j'apprendrai à le faire.
Et juste pour dire, c'est pas, enfin, ceux qui demandent la séparation par exemple, enfin école garçon fille et de séparer de manière définitive, c'est pas les mêmes qui expérimentent des temps non mixtes, mais c'est vraiment deux discours complètement différents. La non mixité c'est un outil pour revenir justement à la mixité de manière beaucoup plus égalitaire dans le milieu, en tout cas.
D'apprentissage.
De la même manière que le genre est un concept pour venir mieux penser les rapports sociaux dans lesquels on est. Enfin, c'est le va-et-vient que tu disais tout à l'heure.
Puis après, ça correspond aussi à des envies, quoi. Enfin, à des moments de vie. il y a des temps où on a besoin de se retrouver avec des personnes dont on a le sentiment qu'elles vivent la même oppression que nous, parce qu'on a le sentiment qu'elles vont mieux nous comprendre. Et à d'autres moments, ce sera autre chose. On aura plutôt, au contraire, envie de se confronter et d'échanger et de faire avancer les gars et d'avancer dans la relation et de faire avancer les relations. Mais je me dis que tout est bon, quoi.
La mixité, elle amène aussi quand même la diversification et le fait que on va pouvoir toucher un petit peu à tout et dans différents. Je disais que la mixité permet la diversification. Sur les temps non mixtes, c'est-à-dire qui rejoignent des choses spécifiques comme effectivement la violence conjugale, le viol, la torture. Effectivement, ça se passe sur des temps. Je crois que amener un homme auprès de femmes qui ont été victimes de violences, c'est aussi de montrer que tous les hommes ne sont pas violents. Après, c'est pas sur un temps de parole, c'est sur des temps d'accompagnement. Pareil pour, tous les hommes ne sont pas violents, toutes les femmes savent pas faire de la mécanique, certaines savent en faire. Et je crois qu'en fait, la mixité, elle permet aussi ça, elle permet aussi cet échange-là. Parce que,
Mais du coup, tu veux dire la diversification du groupe, c'est ça, oui. Parce que du coup, franchement, je me suis plus rendu compte de l'homogénéité qu'on avait dans le milieu militant en expérimentant la non-mixité femme. Parce que du coup, on se dit, on enlève un élément d'oppression, on se dit, ça y est, il va plus rien y avoir. Et en fait, c'est justement là que j'ai trouvé ça criant, la violence de classe et la violence raciste dont on était capable de faire preuve. Et du coup, c'est là, moi, que je me suis rendu compte que on n'était pas du tout diversifié, en tant que, en termes de classe, d'horizons sociaux, d'âge, et de rapport au racisme aussi, finalement, de fait, moi, dans ma vie, je suis de fait souvent en non-mixité, et puis pourtant, je rencontre plus de gens différents que quand j'avais une vie plus mixte en termes homme-femme, parce que juste ça me fait chier, quoi, d'être l'entre-soi, ça me fait chier. Donc de fait, là, dans mon boulot, c'est comme ça. Puis moi, en couple, je suis lesbienne, donc je suis pas en mixité non plus. Mais vraiment, je pense qu'il y a aussi un truc de volonté. La diversité, elle est pas, tu vois, liée qu'au genre, quoi.
Non, pas qu'au genre, mais ça amène. Enfin, je pense qu'à un moment, la mixité amène une richesse. Voilà. Et que, voilà. Et que être que entre hommes ou que entre femmes, je pense que ça appauvrit quelque part. Voilà. Je pense que, y a une richesse dans l'échange.
Que entre blancs ou que
entre. Mais pareil. Oui, voilà. Tout à fait. Qu'être qu'entre blancs, qu'entre noirs ou qu'entre, voilà.
Pareil.
Tout à fait.
Je pense qu'il y a du.
Oui, vas-y.
Au départ, c'était de remettre en confiance des gens qui avaient vécu des choses.
Oui, parce que je touche à ce public-là, et qu'à un moment, quand il y a eu des traumatismes importants, il faut des temps, effectivement, qui se passent qu'entre personnes qui ont vécu certains traumatismes, mais il faut aussi après amener que le traumatisme amené par X sera pas le même par Y, alors qu'ils ont le même sexe. Si on parle d'hommes violents, par exemple, tous les hommes ne sont pas violents. Des choses comme ça.
Marie-Pierre,
tous les pères ne sont pas violents.
Oui, je voulais continuer l'idée de ma voisine là sur par rapport aux apprentissages, parce que j'ai lu un article là qui m'a beaucoup perturbée. D'ailleurs, j'en reparle sans arrêt parce que ça m'a. Donc des théoriciens de l'éducation qui disent que les filles au collège, en tout cas, auraient un apprentissage beaucoup plus rapide et que le fait qu'il y ait des garçons dans la classe les freine beaucoup parce que les garçons resteraient encore bébés très longtemps. Alors après, je vais au conseil de classe de mon fils qui est en quatrième. J'entends les enseignants qui disent « Oh là là, mais les garçons, mais c'est une catastrophe, les filles. Heureusement qu'il y a un groupe de 7 filles là qui sont super bonnes, super intéressées, autonomes, matures, curieuses. Mais les garçons, c'est une catastrophe. » J'entends que tous les ans c'est pareil et que on retrouve toujours ce type de profil. Donc est-ce qu'il y aurait des profils même chez les enfants, des profils psychologiques en termes d'apprentissage qui feraient que ils en sont aujourd'hui quand même à revenir à se poser la question de faire des classes où il y aurait que des filles où on pourrait les pousser bien plus loin
et des classes de garçons où on se mettrait à leur rythme. Quoi. Voilà.
Si je peux me permettre, donc au niveau de l'orientation, l'inspecteur d'orientation de l'Aveyron a fait une étude par rapport à la façon dont l'orientation se fait après la troisième. Et en gros, donc, un garçon à 9 de moyenne, il va aller en seconde générale. Une fille à 9 de moyenne, on va l'orienter vers les filières professionnelles. Et c'est, alors, il a fait une étude sur différents collèges, et c'est vraiment, enfin, collège-lycée, c'est vraiment flagrant. Voilà. Et alors, bon, alors, il y a différentes choses qui ont été faites. Bon, cette année, par exemple, au niveau de l'orientation, au niveau des élèves de seconde, on essaie de leur faire rencontrer des filles qui font des métiers, disons, un peu atypiques. Pour essayer justement de leur dire que bon, ben, il faut viser un peu plus haut, quoi. Voilà. Donc ce truc-là, enfin, l'objectif de l'inspection académique, c'est de le généraliser à des filles un peu plus jeunes pour leur dire écoutez, il y a des trucs, il ne faut pas hésiter. Parce que même les familles rentrent dans ce jeu-là, quoi. C'est très compliqué. Il y a on est normé par rapport à un certain nombre de comportements qui font qu'après, ben, les résultats, ben, ils sont ceux-là. C'est-à-dire que. Après, les filles, elles arrivent au bac, elles sont meilleures que les garçons, il n'y a pas de problème, les résultats sont meilleurs. Mais elles ont moins d'ambition, donc les métiers vont être complètement différents. Ouais.
Oui.
Oui, oui.
J'ai
envie d'apporter, parce que j'étais amenée à m'intéresser à un chercheur homme qui s'intéresse aux violences masculines et aussi justement au genre, etc. Juste pour les élèves, il dit que. Les garçons sont un peu valorisés quand ils font une bêtise et qu'ils sont punis, ça les valorise dans leur côté rebelle, etc. Donc, ils vont plus aller vers ça et les filles, au contraire, elles sont plus valorisées quand elles font scolaire. Donc ça reste dans la bicatégorisation, c'est ça. Donc c'est ça qu'il dit, donc je ne sais pas si ça marchera de faire une liste ou moins liste. Et lui, il l'avait expérimenté, il s'appelle Daniel Delzerland. Oui. Je ne sais pas comment il est perçu dans le milieu de la recherche.
Il a très mal. Ouais,
il avait expérimenté aussi les groupes de parole d'hommes.
Ouais.
Et il disait que ça faisait ressortir justement des choses chez les hommes, pour parler de leur histoire personnelle, ouais. De leurs sentiments, etc. Et donc, ça permettait de se déplacer du côté homme dominant et violent.
Ouais. Ouais, j'ai un petit peu lu aussi ce qu'il a fait. Alors bon, enfin moi j'ai peu d'estime pour ce personnage par ailleurs, mais intellectuellement ce qu'il a écrit c'est intéressant. Et effectivement le fait d'aller que des hommes chercheurs ils aillent étudier faire des enquêtes sur les comportements masculins, c'est super pertinent hein. Et du coup enfin il avait bossé notamment sur un quartier les gamins, ils auraient jamais raconté ce qu'ils ont raconté à lui, ils l'auraient jamais raconté à une nana. Donc, à un moment donné, ça permet d'avoir des données super intéressantes. Après, juste, il a été poursuivi pour harcèlement sexuel sur ses étudiantes un certain nombre de fois. Donc, voilà. C'est très herbe. Ouais. Bon, après, du coup, au bout de, comme ça fait, moi, j'ai vu pendant à peu près 15 ans des plaintes se succéder, des gens témoigner. J'ai tendance à y croire, évidemment.
C'était peut-être un exercice. Mais il avait fait aussi sur l'autre pour... Enfin, moi, je ne veux pas le défendre, mais je veux dire, ce qu'il a fait, c'était quand même intéressant.
Ah oui, n'empêche, ça n'empêche.
Il avait fait des centres pour un violent.
Il les a fait... il a cautionné. Il a ouvert
le premier à Lyon, je crois qu'il a...
En tout cas, c'est une bonne idée, ouais.
Marisol, Fabienne. Marisol, Fabienne.
Oui, c'est une question, c'est un peu dans le même thème, je voulais te demander, du coup j'en profite. On étudiait une pédagogie, par cette histoire des garçons et filles, que les filles développaient d'abord l'hémisphère gauche du cerveau, qu'elles étaient plus douées pour tout ce qui était analytique et écriture, et c'est pourquoi les petites filles apprenaient en CP très très vite à lire et écrire, que les garçons développaient davantage l'hémisphère droit, qui était le global, et c'est pourquoi un homme sait lire les cartes, il ne se perd pas, une femme se perd toujours, enfin, ce genre de trucs. Et bon, c'est vrai que, voilà, je ne sais pas, tu es plus jeune, tu sais, où sont nées ces histoires-là, parce que c'est vrai que les gens m'excitaient, tout ça, que dans le monde de la pédagogie, il y avait des choses comme ça, je ne sais pas si c'est toujours scientifiquement correct, mais c'est toujours en vogue dans l'enseignement.
Voilà. Là, il y a Catherine Bigal, elle est neurobiologiste, et en fait, justement, elle milite pour qu'on arrête de dire qu'il y a un cerveau masculin, un cerveau féminin. En fait, elle parle de plasticité cérébrale et simplement, enfin, quand on pousse un gamin, un garçon à faire des trucs hyper techniques, il va développer tout petit telle sphère du cerveau. Quand on pousse les petites filles vers le langage, elles vont développer telle sphère du cerveau.
Mais à l'école, on est poussé à la même chose.
Donc voilà, on se retrouve avec, mais c'est toujours, toujours, toujours modifiable en fait.
Même au CP, c'est pas la
même. D'accord, juste. Du coup, quand on fait moins, ça.
Et oui,
ça
voilà, et donc, c'est l'entraînement sportif. On se retrouve avec, effectivement, ouais, des radios, ouais, avec des cerveaux, avec des sphères qui sont plus grandes. Mais c'est la plasticité cérébrale et c'est modifiable dans le temps. Et à tout moment, donc c'est pas
rassurant. Et à l'école, on est tous pas pareils. Ouais. À l'école, le personnel qui travaille dans les écoles maternelles est très féminin. Ouais. Ah, oui, et il n'a pas le même comportement face à un garçon que face à une fille.
C'est vrai, même comme à ta
vie. Et les différents, de toute façon, les, enfin, le milieu professeur est quand même jusqu'au lycée très très féminin.
Fabienne,
cette question de mixité dans les écoles, moi ça me surprend parce que. Dans la vie sociale, on est hommes et femmes, on est partenaires de la vie sociale, c'est-à-dire qu'on est obligé d'assumer une certaine mixité. Alors, comment est-ce qu'on peut élever nos enfants, les éduquer dans un savoir-être, dans les relations de sexe, si on les sépare étant enfants, alors qu'ils vont se retrouver partenaires sociaux une fois adultes? Moi, je trouve que déjà, nous, notre génération, on est très déficient dans nos relations, je trouve qu'on a des savoirs. On a un peu de savoir-faire et très peu de savoir-être. Mais alors si en plus, il faut ne pas être mélangé étant enfant, alors je trouve que notre savoir-être dans nos relations, il va être encore plus appauvri. Quoi. Je comprends pas comment on peut faire.
Mais justement, enfin, je sais plus qui disait, c'est une minorité qui parle de ça, de séparer les filles et les garçons sur toute la durée de la vie scolaire. Il n'en est pas question, c'est pas intéressant. Enfin...
Ouais, moi je suis prof, quoi, la non-mixité elle existe déjà partout. Les pauvres ils sont pas avec les riches, les pauvres,
plus fort.
Un enchaînement de domination, ces dominations elles sont partout. Donc après je prends pas sur la question la plus intéressante, mais ce que je voulais dire.
Oui, moi, on parle surtout du système scolaire, mais j'aimerais parler de l'impact médiatique. Justement, j'aimerais parler aussi de l'impact médiatique, c'est-à-dire les publicités de lessive avec une femme, les publicités de voiture avec une femme, les publicités pour les gamins, les grosses lunettes, pour les petits garçons, les petits tracteurs. Je ne pense pas qu'il n'y ait que le système scolaire qui éduque un enfant, il y a aussi énormément de médiatique. Alors, j'aimerais aussi qu'on développe aussi sur problème-là, et je pense que c'est aussi un des gros problèmes.
Ouais, après, tu vois, du coup, en sociaux, on dit que les médias, ils passent par des leaders d'opinion. Enfin, tu vois que c'est pas l'exposition directe qui fait que t'es influencé. C'est ce qu'en fait l'entourage. Tu vois, c'est comment on en parle entre copains, ou ce que vont en faire les parents, ou les instits. Du coup, alors moi, je pense que, en tant qu'adulte, on a une marge de manœuvre pour détourner ça. Enfin, par exemple, sur les pubs et tout, je pense par rapport à ce que du coup ça m'évoque les jouets sexistes et tout ça, toutes les pubs, nous après on a une marge de manœuvre pour donner accès, emmener des gamins dans des rayons de jouets de filles et réciproquement, tu vois, ou pour détourner ça, quoi. Juste, voilà, ça a un impact, mais on peut lutter.
C'est un terrain de lutter. Il y a des effets de groupe aussi autour des vidéos des enfants.
Oh, oui.
Les effets de groupe, c'est forcément qu'on rentre dans une démarche qui devient forcément où on catalogue déjà les gens. En fait.
Bah ouais. Mmh. Ouais. Ouais, c'est sûr que après, ça correspond un peu au fait que du coup, forcément, dans les différentes sphères, dans toutes les interactions humaines, dans les différentes sphères d'activité, les choses vont être organisées, sont organisées majoritairement pour cultiver ce clivage, cette séparation comme ça, hiérarchisée, quoi.
Et ces rôles très assignés.
Ouais.
Les filles ont le droit, on accepte qu'elles sortent un peu de leur rôle. Elles sont un peu garçons manqués, ça va. Les garçons qui puissent sortir de son rôle de mâle, là, c'est beaucoup moins bien accepté.
Au contraire, je trouve pas du tout. Les hommes sont très valorisés quand ils vont toucher un métier de femme. Les grands couturiers, les grands restaurateurs.
Que les hommes.
C'est que des hommes. les coiffeurs. J'entends votre discours sur le corps maternel, je suis pas du tout d'accord. Je passais des années à me bagarrer, à donner des papiers roses aux garçons et des bleus aux filles. Et croyez-moi, j'y ai bossé tous les jours. Et je peux vous dire que dans les ateliers qui étaient ouverts librement aux enfants, le coin cuisine, par exemple, était très prisé par les garçons. Après, on peut pas tout, c'est certain.
Mais du coup, c'est aussi t'as bossé dans ce sens-là, tu vois.
Et oui,
mais c'est là que, du coup, c'est génial que tu racontes ça, parce que si pour toi, c'était quelque chose de prégnant et que t'as essayer de donner une autre logique à tout ça, ben, la preuve, ils ont été.
Ce qui me touche beaucoup, c'est que tu as beaucoup parlé à ce moment, les années 70, et j'avais l'impression, parce que c'était nous, qu'on avait beaucoup bossé dans ce sens, que j'avais, entre guillemets, éduqué un mari à partager les tâches, à s'occuper du gamin aussi bien que moi, sinon plus. Et j'ai l'impression que nos enfants ont perdu ça. Ouais, et je vois mes filles ou mes belles-filles qui se comportent comme ma mère ou ma belle-mère. Et ça m'arrache. Alors, c'est dû à quoi? On va toujours chercher ailleurs. Hein. C'est dû à la télé, c'est dû à l'exemple, c'est dû à la copine, c'est sûrement dû à moi aussi. Au bout d'un moment, j'ai dû baisser les bras, je sais pas. Et puis, dans ce que tu disais aussi, je veux tout faire, je veux pas que mon copain y m'aide. Eh ben, moi, je suis désolée, je veux que mon copain y m'aide. Parce que je mourrais sans savoir nager, je mourrais sans rien comprendre à Internet, et j'ai pas envie. Et puis, il y a des choses que je sais très bien faire. Et puis, c'est super qu'on me valorise quand je fais bien les choses. Tu vois, je crois aussi qu'il faut pas non plus vouloir absolument être... Justement, la diversité, c'est ça qui est bien, c'est la richesse. C'est j'apprécie ce que tu me donnes, moi, je peux te donner autre chose. Et c'est ça qui est intéressant. Et c'est comme ça qu'on s'aime aussi, qu'on s'apprécie. On peut pas aujourd'hui tout savoir. Enfin, je m'étais fixé un défi que j'ai pas pu tenir. Je me suis dit... Tu ne te serviras jamais d'un objet sans savoir comment ça marche. C'était avec le fer à repasser de ma mère. Mais il y a longtemps que j'ai arrêté.
Hein, parce que... Je crois que, si tu peux me permettre, là, c'est une histoire de choix. C'est oui. Quand tu as le choix.
Oui.
Où on peut se poser la question, c'est quand il n'y a pas le choix. Tu as le choix, apparemment, tu t'es donné le choix aussi.
Non, hein, mais j'ai réagi par rapport aussi. À un système éducatif. Quoi.
Ouais. Oui, tout à fait.
Voilà.
Mais tout à fait. Mais après, il y a des personnes, peut-être, elles ont des difficultés de choix parce qu'elles ont été éduquées comme ça aussi. Pas de piste.
C'est-à-dire que sans aller dans l'alternance, comme me dit Daniel, pendant les vacances ou pendant 3 mois, moi je fais la cuisine, toi tu fais la couture, je pense que je fonctionne pas du tout comme ça. Je crois que moi j'aime faire ça, toi tu préfères, moi j'ai horreur de conduire, quand t'es là, super, tu me conduis. Pourtant je suis pas complètement gaga, je suis pas encore handicapée, je peux conduire. Mais si tu pouvais le faire pour moi, ça serait bien. Par contre, moi je viens de faire autre chose. C'est ça qui est intéressant, je trouve. Et après, bon, est-ce que c'est sexué? J'en sais rien. Moi quand je vois des filles conduire des bus ou des camions, je suis là. J'avais un petit neveu qui faisait du canevas. C'était super. Je crois que, comme tu dis, l'idéal, c'est de pouvoir choisir et d'avoir à côté de soi ou autour des gens qui... Mais je reviens à cette idée que je vois de jeunes dames se faire... j'ai l'impression qu'on fait marche arrière. Et pas forcément parce qu'il y a un souci, il y a un problème financier à la maison, parce qu'on est débordé par ci. Non, parce qu'on est revenu. C'est un peu comme pour plein d'autres choses, hein, pour les luttes syndicales ou autres. On a cru que c'était acquis, et on s'est, voilà. Et puis là, il faut tout remettre sur la machine.
Moi, j'ai pas cette image-là de la jeunesse. C'est marrant, hein, parce que la société est tellement variée.
Oui, peut-être que heureusement que tu dis ça, je suis mal tombée.
Mais
les enfants,
Nous, on a fréquenté suffisamment son bras, c'est parce qu'il y a un retour en arrière.
Nous sommes.
C'est ce qu'on avait conduit, et pas. Oui, comme tu disais, pas que sur ces domaines-là, dans le domaine syndical, dans tout ça, tous les acquis sociaux. C'est une lutte constante.
Oui, putain.
Par exemple,
les centres de planification qui ferment. Le manque des centres de planification qui ferment, ça, c'est significatif de la nécessité de maintenir la lutte, quoi, quand même.
C'est vrai, il parlait doucement là, mais il faut que tout le monde en profite. Il parlait des problèmes de contraception, d'IVG, d'accession à la contraception. quand on entend les centres fermés les uns derrière les autres, de suppression dans les hôpitaux publics et tout ça, on devrait se révolter, quoi. Et on laisse courir.
Et le drame, c'est que les GE de conception, ce ne sont pas des hommes qui brandissent. Ouais.
Après, ouais, du coup, moi, je pense effectivement, on n'est pas obligé de tout savoir. Juste, par contre, il faut pas que le fait qu'on soit une femme, ça nous empêche de savoir faire des trucs qu'on a envie de faire. Voilà, tu vois, à un moment donné, du coup, moi, ça m'a plu de m'approprier certains savoirs par ce biais-là, tu vois.
Mais je crois qu'elle touchait juste en disant on a le choix, quoi.
Ouais, c'est ça.
Et aujourd'hui, on fait...
Enfin, tout le monde n'a pas les choix. Ce qui est malheureux, c'est que tout le monde n'a pas les choix.
Je me demande si dans le fait qu'il y ait une régression, il n'y a pas aussi le fait que le féminisme est mal vu. Certaines parties de la société a profité pour attaquer les féministes. Et du coup, beaucoup de jeunes filles, il n'y en a surtout pas féministes. Et du coup, en disant ça aussi, ils renoncent à des droits, ils renoncent à certains buts, ils renoncent... C'est mal vu maintenant de féministes, féministe fait peur. Et voilà, est-ce que, je ne sais pas, s'il faudrait remplacer les mots, comme beaucoup de mots, on a mis des euphémismes, on les a appelés autre chose pour faire moins peur.
Mais ce n'est pas nouveau ça, mais que le féminisme
fait peur. Oui, ça a toujours fait peur, mais beaucoup plus maintenant. Tu trouverais rarement des jeunes filles qui se diraient féministes maintenant. Féministe, c'est un vieux truc des années 70.
Moi non plus.
Personne n'a parlé.
Voilà.
Non mais moi-même, dans les années 70, moi je dois dire qu'il y avait des féministes, elles me gavaient hein, complètement. Hein. Je veux dire, elles étaient, pour moi, elles étaient extrémistes. Mais il y en a partout des extrémistes. Donc c'est pas contre le féminisme, mais c'est donc, des personnes aussi.
Oui, ces féministes-là qui ont été beaucoup médiatisées.
Voilà.
Oui.
Oui,
voilà. Il y avait sans doute une manipulation. Voilà. Une manipulation aussi.
Oui, voilà. C'est pour ça, voilà. Mm-hmm. En acceptant cette manipulation-là, est-ce qu'on ne perd pas du terrain, justement
Après, moi, je suis pas sûr que ce soit si simple de dire qu'on est en arrière ou en avant.
Oui,
enfin,
je pense
qu'il y a des aspects sur lesquels on a avancé et d'autres pas du tout, quoi, ou très 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 lentement. Majoritairement, on a avancé très lentement. Mais, par exemple, sur les violences faites aux femmes, vu que c'est un peu là-dessus que j'ai plus de données, il y a de plus en plus de moyens, par exemple, pour aider les victimes, il y a de plus en plus de centres d'hébergement, en tout cas pour ce qui concerne les violences conjugales. Sur le viol, c'est pas tout à fait pareil, mais il y a de plus en plus de moyens, et même si les chiffres ne bougent pas, enfin, même, voilà, il y a toujours une femme qui meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son conjoint, etc., n'empêche que ce qu'on observe, c'est qu'il y a toujours autant de victimes, mais elles viennent plus jeunes dans les centres d'hébergement. Et donc, enfin, voilà... On se dit ouais ben ça n'avance pas aussi parce qu'en fait elles partent beaucoup plus tôt, donc au lieu d'être victimes de 20 à 50 ans, elles sont victimes de 20 à 25. Ça change tout en fait quand même, ça fait des années de violence en moins. Et ça, tu vois, c'est des petites évolutions, enfin des grandes en fait, dont on se rend pas forcément compte parce que voilà, si on regarde les chiffres, on se dit merde, ça bouge pas du tout, tu vois. Du coup, je me dis ouais, c'est pas si simple quoi.
Dans les relations garçon-fille dans les cités, pardon.
Moi, je pense que le monde a évolué quand même, malgré qu'on ait peur que ça régresse et tout ça. Le monde a changé. Moi, j'ai été élevée par une mère militante féministe qui nous a bassinés. On était trois filles en plus. Petit témoignage de la soirée. Bassinés avec ça, il fallait qu'on ait une carrière, il fallait qu'on soit indépendante, il fallait, voilà. C'était presque le diktat de la carrière professionnelle, il fallait qu'on fasse nos études et tout ça. Quand j'ai été mère et que je me suis mis en congé maternité, elle m'a dit il faut que ça dure le moins longtemps possible parce qu'il ne faut pas que tu perdes ta vie professionnelle et surtout n'allaite pas. Enfin, tu vois, elle était dans ces schémas-là et je pense qu'il y a beaucoup de femmes de cette époque-là, parce qu'elle a aujourd'hui 70 ans, qui étaient là-dedans parce que c'était leur lutte à elles à ce moment-là.
Ouais.
Et elles avaient raison à l'époque de penser ça. Mm-hmm. Mais aujourd'hui, nous, on ne pense plus ça, on n'est plus dans ces schémas-là, quoi. Et ça a changé. Et elle a du mal à comprendre ça. Et quand je lui dis, je veux m'arrêter un moment pour m'occuper de mon bébé, ça la dépasse complètement. Pour elle, c'est horrible. Je vais être dépendante, c'est horrible. Et quand je lui dis, mais je me mets à temps partiel parce que le boulot, c'est bien, mais bon, je veux aussi faire autre chose à côté, elle comprend pas du tout. Et elle, elle dit, maintenant, tu es là, il faudrait que tu arrives là. C'est-à-dire, faut que tu arrives au-dessus au niveau professionnel, mais il faut monter encore, quoi, tu vois. Et il y a, je pense que le monde a changé, que la, en tant que femme,
peut nuancer plus.
Je suis sa fille, donc c'est une autre génération. J'ai plus la même vision qu'elle des choses. Et je dis pas que c'est pas bien ce que elles ont vécu, parce qu'à ce moment-là, c'est ça qu'il fallait faire.
Ouais.
Mais on n'est plus dans le même monde.
Ouais, fait, le monde a changé, mais je peux vous dire que dans les établissements aussi, vous avez des commissions pour aider les familles en difficulté. Mm-hmm. Et vous vous rendez compte quand même que bon, quand il y a séparation dans les familles. Mais les femmes, souvent, elles se retrouvent avec la charge des gosses ou le métier. Il y a des hommes, bon, c'est des papillons, c'est-à-dire quand ils arrivent, ce qui fait, en gros, les enfants, ils appellent énormément à leur mère. Les hommes, certains ne s'en occupent vraiment pas. Quand ils viennent, quand ils ont le droit de visite, c'est les bons dieux. Alors des fois, ils ne payent pas les pensions, mais par contre, ils vont faire le petit cadeau qui va faire plaisir. Enfin, il y a des choses quand même. C'est choquant, quoi, c'est dur, parce que souvent, c'est comme ça que ça se passe.
Voilà. C'est un exemple parmi d'autres, mais je pense qu'il y a un problème d'égalité en France. Mais on voit aussi l'inverse, c'est-à-dire qu'on voit aussi des femmes qui s'attachent absolument à ce que l'homme n'ait pas la garde alternée, et ils vont avoir tout le boulot du monde, et les enfants, et le boulot, et l'homme, il va se battre pour avoir la garde alternée, il ne l'aura pas. Et il y a un problème d'égalité, je veux dire, qu'il soit dans un sens ou dans l'autre, on n'est pas dans une société qui conçoit l'égalité de... dans la vie sociale, tout simplement, d'égalité de père ou de mère, de parentalité, de choses comme ça. Notre société a encore du mal à aller vers tout ça.
Oui, je suis
d'accord. Vers la parentalité.
Oui.
Sa chemise.
Dans le monde du travail.
C'est quand même encore une minorité des hommes qui demandent à avoir la moitié des enfants.
Dans le monde du travail, c'est quand même les femmes qui souffrent de la précarité le plus. Ça, on n'est pas vers une amélioration. De les caissières de supermarché, une femme qui élève seule des enfants a vachement plus de chances d'être embauchée, non pas parce que le patron va penser qu'elle va être plus sérieuse, mais simplement parce qu'on va lui offrir un temps partiel. Elle a des gosses à la maison, elle est dépendante, elle ne se foutra pas en grève.
Ouais. Ouais. Et puis du coup...
Et je reviens sur le milieu scolaire, parce que je crois que ça aussi, c'est quand même vachement lié au monde de l'entreprise. Je suis enseignante en lycée pro. En lycée pro, depuis 15 ans, là, on essaye, enfin je dis on, l'objectif, c'est vraiment que l'école s'adapte à l'entreprise, qu'on soit au service de l'entreprise. Tout à l'heure, on a parlé des savoir-faire et des savoir-être. Alors, c'est spécifique à l'enseignement professionnel, sans doute, mais le savoir-être qui est inculqué, c'est le savoir-être de l'entreprise. C'est-à-dire, quand même, c'est la docilité et la soumission. Et ça va énormément avec les clichés, les stéréotypes hommes-femmes, énormément. Hein, c'est-à-dire que dans l'enseignement pro, on a des filières qui sont à 100%, voilà, les filles vont dans le secrétariat, vont dans les métiers du social, et les garçons vont aller dans l'industriel. Et une fois que les filles sont dans le métier du social ou dans le secrétariat, eh bien, y a le monde enseignant les forme à être vraiment... un exemple que j'ai entendu en salle des profs la semaine dernière, c'est sur... il y avait un contrôle en cours de formation qui se faisait, eh bien, une de nos élèves, des collègues lui ont dit, oui, bah, ton vernis à ongles, là, il n'est pas propre, il n'est pas nickel. Mais c'est pas... Voilà, c'est quelque chose d'actuel. C'est, alors, je ne dis pas que c'est tout le monde comme ça, je ne généralise pas. Mais c'est parce que, quelque part, les enseignants pensent avoir intégré que dans l'entreprise, le patron voudra la secrétaire avec des ongles bien faits. Donc, on le leur enseigne dès l'école.
Ah oui, carrément.